6h03, vendredi 18 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Les prévisions sont impeccables pour aujourd'hui, pour la fin de semaine. Alors actuellement, c'est autour d'à peu près 13 degrés, avec un ciel partiellement nuageux. C'est un peu plus frais aussi en périphérie. Et le maximum d'ailleurs aujourd'hui va tourner autour de 13 degrés. En un mot, les prochains jours seront marqués par des températures 12, 13, 14 degrés. Et beaucoup de soleil à travers tout ça. Ce qui fait que pour demain, samedi, c'est généralement ensoleillé 13 degrés. Dimanche, ensoleillé avec un maximum de 16 degrés également. Et même le temps ensoleillé se poursuit au début de la semaine prochaine. Bon, parlons d'abord des fameux tests de dépistage. On sait que, d'abord, c'est important de tester, qu'on a augmenté la capacité au Québec. C'est à peu près quoi? 23, 25 000 tests. Le problème, c'est l'embouteillage dans certains centres, des gens qui doivent attendre. C'est très variable selon le moment de la journée et selon le centre. Parfois, en l'espace d'une demi-heure, c'est réglé. Parfois, c'est 4-5 heures d'attente. Même, on suggère de prendre un rendez-vous plutôt que d'attendre comme ça à l'extérieur. Et vous avez tous les gens aussi qui veulent avoir un test et qui se font dire non, puis qui ne sont pas contents. Et on a un peu raison de dire non, parce qu'il faut tester à partir de certains critères. Le ministre Christian Dubé, hier, trouve que ça n'a pas d'allure, que des gens attendent aussi longtemps. Pourquoi les gens attendent aussi longtemps? En fait, ils attendent deux choses, d'être testés, puis d'avoir le résultat. Quand le résultat est positif, je vous le disais hier matin, la réponse vient assez vite. Mais si c'est négatif, bien, ça peut tarder. Donc, laboratoire surchargé, du personnel, on en manque. Quand on trouve un cas, la santé publique essaie de retracer l'historique des personnes avec qui elle a été en contact et donc d'autres personnes à tester. Je ne dis pas que ça nous console, mais je regardais ce matin en France, c'est exactement le même problème. C'est pareil, 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 là, les mêmes raisons, les mêmes explications. Là aussi, il y a un temps d'attente et le président Macron trouve que c'est trop long avant d'avoir la réponse. Donc, j'écoutais la santé publique hier, Dr Drouin, j'écoutais le point de presse également, M. Dubé et Dr Arruda. Dans le fond, il faut tester qui? Des gens qui ont des symptômes ou encore des gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui est positif. À quel moment tester? Dr Drouin nous a dit cette semaine, si on y va trop vite, la réponse sera peut-être négative, mais deux jours plus tard, ce sera positif. D'où l'importance de cette période de confinement, là, c'est-à-dire de quarantaine, 7 à 14 jours. Et une fois qu'on a dit ça, ça exclut un paquet de monde, là. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'écrivent en disant, écoutez, on a des activités en fin de semaine, on peut-tu se faire tester avant? Ça donne pas grand-chose, puis ça engorge. Puis d'ailleurs, on risque de vous revirer de bord, puis de pas vous tester. On s'attaque à des clientèles où il y a un risque d'avoir une réponse positive, puis pour voir la suite des choses. Maintenant, l'autre volet, ça concerne le niveau d'hospitalisation. C'est encore assez sous contrôle, on va le dire franchement. Le problème, par contre, ce qu'on remarque, c'est, disons, la pression exercée sur le réseau de la santé. Dans les urgences actuellement, là, je regardais les chiffres dans les différents hôpitaux, là, mais ils ont des problèmes avec des urgences occupées à plus de 100 % 125, 140 %. Et là, c'est l'espèce d'équilibre qu'il faut trouver. On demande aux gens de ne pas aller à la Maisonneuve-Rosemont, de ne pas aller à Santa Cabrini. Il y a des patients qui sont en attente de transfert. C'est un peu toujours la même histoire, là. C'est-à-dire que c'est pas d'hier là, qu'on a des taux d'occupation de 115, 120, 125 %. C'est pour ça que si il y a une vague qui part puis qu'on est obligé d'hospitaliser des patients en COVID, bien, ça va complètement avoir un impact majeur sur le réseau de la santé. Alors, c'est un peu ça le portrait. L'autre volet, c'est évidemment les directives qui sont données. Pas d'alcool après minuit, pas de rassemblement de plus de 10 personnes, on promet des amendes, on dit qu'on a facilité ou qu'on va faciliter le travail des policiers pour ce qui est des constats d'infraction, et il y aura point de presse à 11 heures ce matin, la ministre Guilbeault et les chefs de police du Québec, c'est-à-dire la directrice générale par intérim de la SQ, directeur du SPVM puis le directeur de la police de Québec qui représente l'ensemble des directeurs de police. Alors, qu'est-ce que les policiers auront comme pouvoir en fin de semaine? Quels seront véritablement leurs outils, leurs moyens d'action? On connaît tous les restrictions, là. On ne peut pas débarquer chez le monde comme ça. Ils ne peuvent pas entrer dans la maison, à moins d'avoir un motif très précis. Et donc, comment la police va pouvoir gérer? Et l'idée, c'est aussi, je pense, d'abord et avant tout, une responsabilité de citoyen. C'est pas... C'est, je veux pas jouer à la police qui débarque chez le monde. Pas, c'est pas mon style, puis j'aime pas trop ça à la base, là. Mais en même temps, les gens, on dirait que, parce qu'ils sont en famille, ont l'impression qu'il n'y a pas de danger. Où les amis, on le sait, c'est du monde responsable. Mais 10 personnes, c'est déjà quand même appréciable. Et c'est peut-être important de le faire à ce moment-ci, parce que plus on va avancer, puis on regarde ailleurs dans le monde, si on regarde la France, si on regarde l'Espagne, en Israël, on retourne vers le confinement. Il n'y a personne qui veut vivre ça. Encore. On nous a dit qu'il n'y aura pas de confinement comme au printemps dernier, mais il pourrait y avoir, selon les régions, selon les secteurs, des mesures beaucoup plus strictes. Vous savez, je regardais le tableau des mesures, là. Les restaurateurs qui en arrachent n'ont pas envie de se faire fermer une deuxième fois, là, puis de se contenter des commandes à emporter. Alors, c'est toute cette pression-là qui s'exerce. On verra quels sont les moyens qui seront donnés aux policiers. Et là, en parallèle, vous avez une série d'images qui poursuivent, en fait, que vous pouvez regarder là, sur les réseaux sociaux, des images justement dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une partie de baseball, Ligue senior, deux clubs. Et là, les joueurs, comme on le voit, c'est souvent, ben, ont décidé de s'enlacer, de se taper dans les mains, puis de serrer la main après la victoire. Puis là, les autorités disent du baseball, ben, qu'est-ce que vous dites, comme ça, une victoire, puis ça se contrôle pas. La santé publique est pas contente. Dit que c'est irresponsable de faire ça. Le président de la Ligue dit « Ouais, mais ils se sont, ensuite de ça, lavé les mains après s'être serré les mains. » C'est sûr que c'est spontané, c'est sûr que c'est comme ça. Mais ça a amené son lot de réactions. Juste un dernier mot au sujet du dossier de la COVID. Ce qu'il va falloir surveiller de très près, c'est la situation dans les écoles. Hier, le ministre de l'Éducation a dit « Il y en a, là, mais c'est un pourcentage évidemment infime. Tant au niveau des élèves, il y a une école qui est obligée de fermer, une école juive de Montréal, parce que là, il y a plus qu'un cas, puis il y en a même plusieurs, là, et on a peur, évidemment, que ça prenne de l'expansion dans les prochaines semaines. C'est pourquoi les parents aussi ont un rôle majeur à jouer durant cette période-là. Je comprends que les enfants puis les ados... C'est assez compliqué là, à comprendre. Quoique les enfants me disent beaucoup de profs, ont l'air à s'habituer. Ça semble même plus facile pour des enfants que pour des adultes. Mais quand même, je pense que les parents ont un rôle majeur à jouer dans une situation comme celle-là. Et puis, vous dire qu'en Colombie-Britannique, les enfants vont être testés à partir de la salive. Dr Arruda a dit hier... On attend là, que ça soit confirmé par Santé Canada, mais il faut croire qu'en Colombie-Britannique, ils ont décidé d'aller un peu plus vite. Ça donne un résultat supposément plus rapide, puis disons aussi que c'est moins invasif que le test actuel. Bon, dans les autres nouvelles, Journal de Montréal qui nous parle de Walmart, qui brasse les producteurs agricoles du Québec, et les producteurs pensent qu'ils pourraient, au terme des nouvelles exigences de Walmart, perdre 465 millions. Pourquoi? Parce que Walmart Canada a averti tous ses fournisseurs qu'ils devront payer des frais de développement d'infrastructures, 1,25 %, et de développement du commerce électronique de 5 % pour les produits vendus sur le site de Walmart. Donc, Walmart, pas besoin de faire un dessin sur le pouvoir d'achat, impose ça aux producteurs et d'autres, voyant ce que Walmart fait, ben, décident de faire la même chose. Et la plupart des producteurs ne veulent pas trop en parler parce qu'ils ont peur des représailles. C'est quand Walmart achète ton produit, c'est en grosse quantité. Et là, on t'explique que tu vas payer. C'est vrai pour les producteurs agricoles, puis c'est vrai pour les autres. Et c'est sûr que comme approche, c'est raide, là. C'est pas tous les producteurs qui sont capables d'assumer ces coûts-là. Et le président de l'UPA dans le Journal de Montréal dit ce matin que... Ils sont en train d'imposer leurs lois, leurs conditions, que personne n'ose se plaindre, et on demande une enquête du Bureau de la concurrence. Pour voir un peu si ce n'est pas un nouveau modèle qu'on est en train, là, qu'on a concocté puis qu'on est en train d'imposer. Alors, dans le Journal de Montréal, vous allez pouvoir lire ça ce matin. Parlons du procès de, en fait, qui implique l'ex numéro 2 de l'UPAC, qui, lui, poursuit le gouvernement pour 2 millions. Il prétend qu'il a été congédié, le gouvernement prétend qu'il a démissionné. Donc, Marcel Forget a témoigné. Philippe Bonneville sera avec nous tantôt. Mais c'est un témoignage, je parlais à Philippe hier, extrêmement dur pour M. Forget. Il pleure, très mollo dans la voix, et raconte comment on s'est débarrassé de lui. Et encore une fois, on vise Robert Lafrenière, qui était son patron, à l'UPAC, et on vise aussi le grand patron des emplois supérieurs, le haut fonctionnaire André Fortier. Et il raconte dans ce procès, donc dans son témoignage, que lui ne voulait pas partir, qu'il voulait rester, mais qu'on lui a mis de la pression, et qu'on a même, on l'a appris il y a 2 jours, on a même annoncé sa démission avant qu'il signe sa lettre de démission. Ça, c'est le volet personnel. Puis lui, il dit qu'il n'a jamais rien fait de croche, qu'il n'était pas un courtier, qu'il n'a pas agi comme courtier, mais que, comme avec des amis, tu parles de tes placements, tu investis dans quoi. Puis bon, il y a des gens qui l'ont écouté, puis ont trouvé ça intéressant, puis ont décidé d'y aller. Alors, c'était pas... en tout cas, sa prétention, c'est sa défense. Mais ce qui devrait intéresser le public dans son témoignage, c'est la perception que Robert Lafrenière donnait aux politiciens. Il venait d'être renouvelé, 5 ans, plein pouvoir, puis les députés avaient peur de lui. Les députés qui s'approchaient en disant, « Monsieur Lafrenière, est-ce que vous êtes en train de faire de la filature, faire de l'écoute? » Imaginez-vous, là, c'est le boss de l'UPAC, indépendant, 5 ans, et fait trembler les députés. C'est pas rien. Et il n'est pas exclu, me disait Philippe, que M. Lafrenière retourne donc témoigner d'ici la fin du procès. Situation tendue du côté de Oka, alors qu'il y a une maison qui a brûlé. Évidemment, origine suspecte, c'est tout près de la Pinède. C'est un promoteur immobilier qui, d'ailleurs, est en train, qui a des pourparlers avec les Mohawks pour leur remettre une partie de territoire. Mais c'est sûr que les gens qui habitent dans le coin, c'est un nouveau projet domiciliaire, sont inquiets. Personne ne veut être identifié parce qu'on ne veut pas de représailles. Et la Sûreté du Québec a donc augmenté les patrouilles dans ce secteur-là. Le ministre Guilbeault, ministre du Patrimoine, nous annonce que les géants du web, là, les Netflix, les Google, puis tout ça, là, ça coûte, en termes de pertes pour le Canada, là, 1 milliard de dollars d'ici 2023. Et qu'il va présenter donc une réforme qui va faire en sorte que les firmes américaines, donc multinationales, vont devoir contribuer, investir dans la production locale. Vont devoir charger les taxes qui s'imposent et contribuer à la culture canadienne. Alors, ça veut dire Spotify, Netflix, Disney et d'autres. Monsieur Guilbeault dit que c'est actuellement un système qui n'est pas équitable. Pourquoi des entreprises comme Vidéotron, Bell et les autres, donc canadiennes, doivent respecter des consignes, doivent payer des montants, réinvestir, et les autres ne feraient que passer prendre notre fric sans avoir l'obligation d'en retourner une partie dans la machine. C'est un changement de cap de la part du gouvernement. Je me souviens de discussions avec Mme Joly, qui était responsable, avec Justin Trudeau, qui disait « on ne veut pas augmenter le fardeau fiscal des contribuables ». Ce qui était une aberration mentale entre vous et moi, là. C'est comme si vous aviez un restaurant, puis vous chargez les taxes aux clients, parce que c'est la loi, puis votre voisin, il ne charge pas les taxes. Est-ce qu'on appelle ça avoir un avantage? Ce n'est pas d'augmenter le fardeau fiscal. À ce compte-là, enlève toutes les taxes. Donc, la question, c'est de quelle façon on va véritablement forcer ces entreprises à investir. Et l'objectif, dit Stephen Guilbeault, c'est d'avoir quelques centaines de millions de plus par année pour la production locale et que cet argent-là va venir de Disney. Vous connaissez la réponse de Netflix en disant, oui, on achète quelques produits québécois, on investit, on l'a vu là, récemment, puis il y a aussi des tournages qui se font. Parce que avec le taux de change, puis disons la variété des paysages, le Québec, puis le reste du Canada, Colombie-Britannique aussi beaucoup, sont des lieux de tournage qui sont quand même importants. Puis il y a une qualité de techniciens aussi au Québec. Alors, c'est intéressant pour des producteurs comme Netflix. Mais comment est-ce qu'on va, de façon systématique, les amener à contribuer? Quand même, j'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être assez intéressant. Ça fait le tour des grands titres de ce matin. On fait une pause, 6h21. Véhicule en panne, cette fois au pont Jacques-Cartier.